Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Human activity has had a more direct effect on global warming than previously thought.
Bonjour à tous. 400 000 décès prématurés en Europe en raison de la pollution atmosphérique et un air bien moins respirable en Hongrie ou en Bulgarie qu'en Chine ou en Inde. Le tableau dressé le mois dernier par la Cour des comptes européenne n'était déjà pas brillant. Il est aujourd'hui relayé par le rapport d'une ONG Transport et Environnement qui examine les conséquences économiques et touristiques de cette pollution. À Bruxelles, les explications de l'ex-ministre.
Passer des vacances à Paris, Prague ou encore Londres a des conséquences sur notre santé cardiovasculaire. Johan Le Petit est chargé de la qualité de l'air pour l'ONG Transport et Environnement.
Nous avons pu réaliser un classement des villes européennes et nous avons pu établir que passer un week-end dans une ville comme Prague par exemple équivaut à fumer 3 cigarettes. C'est l'impact sur votre santé. Un week-end à Paris, par comparaison, équivaudrait à fumer l'équivalent de 2 cigarettes. Si vous décidez de passer un week-end à Londres, vous aurez fumé l'équivalent de 3 cigarettes. Si vous vous y rendez en hiver, cela pourrait être pire à cause des émissions liées au chauffage domestique.
Voilà une nouvelle à faire tousser les non-fumeurs et les enfants. L'ONG s'étonne du manque d'informations à ce sujet.
Les autorités publiques, lors des pics de pollution, nous conseillent d'éviter les activités physiques, d'éviter le jogging, d'éviter de faire du vélo. En revanche, arpenter une ville, marcher beaucoup, découvrir de nouveaux lieux, cela ne semble pas inquiéter les autorités, alors que ça se rapproche vraiment beaucoup d'activités physiques.
Malgré les politiques de l'Union européenne, la qualité de l'air ne s'est pas améliorée ces dernières années. L'Union a par exemple défini des limites en concentration de polluants que les citoyens peuvent respirer. En 2016, pourtant, seuls 6 États membres sur 28 ont pu respecter ces limites. L'Estonie, l'Irlande, Chypre, la Lettonie, la Lituanie et Malte. Frédéric Saublé, auditeur à la Cour des comptes européenne.
Clairement, la situation est encore très très problématique et le progrès est assez lent.
Qu'est-ce qui n'est pas assez bien? Qu'est-ce qui n'est pas efficace?
Tout ça dépend un petit peu dans quelle ville et dans quel pays on se trouve. Dans les pays de l'Est, on a surtout du problème par rapport au charbon, par rapport au chauffage. Mais si on parle de la France, par exemple, chacun sait qu'il y a des problèmes des émissions liées aux voitures, par exemple, en particulier les moteurs diesel. On sait qu'il y a aussi des feux de cheminée qui créent des problèmes. L'agriculture est une grosse source de pollution. Donc la situation doit vraiment être analysée ville par ville, région par région, pour voir quelles sont les sources de pollution et comment est-ce qu'on peut régler le problème.
Dans certains États membres, comme la Bulgarie ou la Hongrie, les conséquences sur la santé dues à la pollution de l'air sont plus importantes qu'en Chine. La Cour des comptes européenne souligne également que la directive de la Commission européenne sur la qualité de l'air remonte à 2008. Les normes ne sont pas assez strictes et bien en deçà des données de l'Organisation mondiale de la santé. Frédéric Saublé.
Clairement, on aimerait que les standards en Europe de la qualité de l'air ne soient pas basés sur un compromis politique, mais bien sur des données scientifiques et des recommandations de l'OMS.
La Cour demande notamment une révision de cette directive. La Commission rendra son avis à ce sujet en début d'année prochaine. Il faudrait aussi des mesures plus adéquates de la pollution. Certaines villes placent les capteurs à des endroits stratégiques pour faire croire que l'air est plus respirable qu'en réalité, souligne le rapport. L'ONG Transport et Environnement prévient, le tourisme dans les grandes villes européennes est en danger.
Nous voyons dans certaines villes, notamment en Chine, que la qualité de l'air commence à avoir un impact sur le tourisme. En effet, de plus en plus de touristes potentiels se renseignent sur les niveaux de pollution. Par exemple, nous l'avons récemment vu dans une ville comme Hong Kong. Si rien n'est fait, si le problème persiste, les touristes s'en rendront compte tôt ou tard et auront certainement des alternatives plus attrayantes vers des villes plus propres et pourront évidemment privilégier ces alternatives.
Pour rappel, la Commission européenne a saisi en mai dernier la Cour de justice de l'Union contre l'Allemagne, la France, la Hongrie, l'Italie, la Roumanie et le Royaume-Uni pour dépassement des valeurs limites fixées de la qualité de l'air.
L'Europe qui par ailleurs a décidé d'harmoniser le nom des carburants dans les 27 pays que comptera bientôt l'Union européenne. Indispensable pour les conducteurs désemparés devant les pompes à essence et diesel étrangères. Date des faits dès vendredi, les explications de Laurent Berthaud.
Voici pour le Nord les nouveaux tarifs à compter d'aujourd'hui 0 heure. Gazole 1,85 francs plus 6 centimes, super 2,87 francs plus 11, ordinaire 2,66 francs plus 11 centimes également.
Il y a bien longtemps en France que les carburants de la fin des années 70 ont laissé la place au sans-plomb Super 98 et 95 E10, désormais bien connus des automobilistes. Mais qu'ils viennent à voyager hors des frontières et le conducteur français se retrouve un peu perdu. En Roumanie, est-ce qu'il faut choisir de faire le plein de Benzina ou de Motorina ? En Suède, peut-on remplir son réservoir prévu pour le gasoil de Blifri ? La réponse est non. C'est pour lever toute ambiguïté et risque de casse qu'une directive européenne a décidé d'harmoniser en 2014 le nom des carburants en Europe, mais d'autres pays limitrophes sont concernés, l'Islande, Liechtenstein, Norvège, Macédoine, Serbie, Suisse et Turquie. Une nouvelle signalétique et de nouveaux noms apparaissent. Tous les carburants essence sont identifiés par une étiquette ronde et la lettre E, suivie d'un chiffre indiquant le taux maximal d'éthanol. Le diesel, lui, portera la lettre B dans une étiquette carrée. Pas de panique, tous les distributeurs ne sont pas encore prêts. La nouvelle signalétique apparaîtra progressivement dans les stations et dans un premier temps, les appellations locales devraient subsister.
Voyage en jet privé pour assister à des matchs de football en Russie ou en Bulgarie, croisière à bord de yachts de milliardaires, le Premier ministre hongrois Viktor Orban et son entourage se retrouvent épinglés pour leur style de vie luxueux. Pour en parler, on retrouve Florence Labruyère à Budapest. Depuis les révélations par un média indépendant, et il n'y en a plus beaucoup en Hongrie, sur ces voyages fastueux, le Premier ministre a donc été vivement attaqué par l'opposition, Florence.
Oui, Viktor Orban a été interpellé au Parlement. Combien de fois avez-vous voyagé en jet privé ? Lui a demandé un député socialiste. Le Premier ministre n'a pas nié, mais il a répondu par une pirouette. Ça fait 30 ans que je voyage comme cela et j'ai bien l'intention de continuer. Et d'ailleurs, si j'ai le temps, j'assisterai au match contre l'équipe de Grèce, a répliqué Viktor Orban.
Alors on pourrait dire de manière provocante, quel est le problème ? Les hommes politiques ont un emploi du temps chargé et il n'est pas rare qu'ils prennent des avions privés pour gagner du temps.
Oui, mais en premier lieu, d'abord, il ne s'agit pas d'un simple avion privé. Atlatso, le portail qui a mené l'enquête, a publié des photos de cet avion très luxueux qui vaut 53 millions de dollars. L'heure de vol coûte près de 10 000 dollars. Le média a aussi publié des photos de Viktor Orban en train de sortir de cet avion à minuit, le 25 juillet dernier, à l'aéroport de Budapest. Il revenait de Bulgarie où il avait assisté à un match de foot et c'est à cause de ces photos que le Premier ministre n'a pas pu nier qu'il voyageait à bord du jet. Le deuxième point est qu'on ne sait pas à qui appartient cet avion. Selon le cabinet du Premier ministre, Viktor Orban a été invité par l'homme d'affaires István Garancsi. Garancsi est un ami d'Orban et un oligarque très riche qui rafle des marchés publics financés par les fonds européens. Alors le parti d'opposition Jobbik affirme qu'Orban accepte pendant son mandat des cadeaux très chers de la part d'oligarques qui reçoivent des centaines de millions d'euros de l'État et de l'Union européenne. Or, la loi hongroise interdit à un député, et Viktor Orban est aussi député, de recevoir des cadeaux en nature dont la valeur dépasse son salaire. Le Premier ministre n'a pas reçu de cadeau, a répondu son cabinet. L'avion devait voler de toute façon et M. Orban a été invité au dernier moment.
L'opposition entend porter plainte. Quelles conséquences cela peut-il avoir? Florence.
Eh bien, il est peu probable qu'il y ait des poursuites judiciaires, car le procureur de la République est un fidèle de Viktor Orban. Mais au plan politique, pour l'opposition, cette affaire souligne l'arrogance du clan au pouvoir, qui semble agir en toute impunité. En revanche, pour le gouvernement, il s'agit d'une attaque de médias libéraux manipulés par le philanthrope américain George Soros. Et Viktor Orban a émis des menaces à peine voilées contre ces médias.
Merci Florence Labruyère à Budapest.
Cuando llega el momento y cuando se convoquen las nuevas elecciones municipales, yo estoy dispuesta a ser de nuevo candidata para la alcaldía de Madrid.
Son combat à elle, c'est celui de la probité et de l'idéalisme. La maire de Madrid, ancienne juge incorruptible, proche de Podemos, a décidé de se présenter aux prochaines élections municipales de 2019. Petit détail de son curriculum vitae, Manuela Carmena a 74 ans, son portrait signé François Musso.
Le week-end, elle reste chez elle, en famille, et elle exige de ne jamais être dérangée. C'est le temps pour ses petits-enfants, pour se reposer, pour faire de la pâtisserie et prendre un thé avec ses amis de toujours. C'est la limite qu'elle a imposée à tous au sein de la municipalité. Le reste du temps, Manuela Carmena est une professionnelle, une moine soldat de l'action publique, pas de la politique, dit-elle, car elle n'aime pas ce mot. L'action publique, elle aime tellement ça qu'elle a décidé de rempiler. À 70 ans, celle qui fut avocate dans le domaine social puis juge, connue pour sa sévérité face à la corruption, avait battu la droite. C'était il y a 4 ans. Aujourd'hui, à 74 ans, elle estime qu'il lui faut se présenter de nouveau. Elle dit avoir une bonne santé, marcher sans difficulté, avoir plus d'énergie que jamais. Et surtout, ce qu'elle dit avec force et flamme, c'est qu'elle n'a pas fini l'œuvre qu'elle veut laisser derrière elle. Une ambition qui pourrait se résumer en ces termes, rendre l'administration locale plus efficace, plus proche des citoyens et de leurs attentes, et rendre effective la démocratie participative. Des chantiers, Manuela Carmena en a ouvert avec ses élus bien plus jeunes et plus engagés de la gauche radicale. Référendum populaire pour refaire des places et des avenues, possibilité d'assister et de donner son opinion pendant les conseils municipaux via Internet, réduction drastique des dépenses de luxe. Dans l'opposition, on invite Manuela Carmena à retourner à ses fourneaux et à ses petits-enfants car elle serait, je cite, « trop radicale et trop idéaliste ». Toute sa vie, la mère a été une battante, elle ne semble pas aujourd'hui vouloir déposer les armes.
Two or three words and a lovely smile from a girl who speaks English as a Spanish cow. Under the moon, she dreams of Hollywood.
Le tourisme médical ne concerne pas que les soins dentaires en Hongrie ou en Pologne. L'hôpital de Calais, dans le nord de la France, augmente son budget grâce à une clientèle d'outre-Manche. Les patients britanniques n'hésitent pas à venir dans l'Hexagone pour une opération car les délais d'attente peuvent être divisés par 3 ou 5. Le partenariat est négocié directement entre l'hôpital et le service de santé britannique NHS et ne sera donc pas impacté par le Brexit. Reportage à Calais signé Lise Verbeck.
Bienvenue au centre hospitalier de Calais. Welcome to Calais Hospital. For English, press 1.
Accueil des patients oblige, l'hôpital de Calais s'est mis à l'anglais. Au téléphone, mais aussi à l'accueil, dans les couloirs de l'hôpital ou encore dans les chambres. Entendre la langue de Shakespeare dans une ville étrangère, cela rassure Jean. Cette Anglaise de 63 ans a fait 2 heures de route jusqu'à Douvres, où elle a pris l'Eurotunnel. Ce jour-là, elle enchaîne les rendez-vous médicaux avant son opération pour une prothèse de genou. Radio, chirurgien, anesthésiste, prise de sang. En 3 heures, tout est réglé.
Le chirurgien m'a dit aujourd'hui que je serai opérée en novembre. Dans un mois, c'est très rapide. Ça m'a surprise que ce soit si tôt. C'est fantastique. En fait, mes problèmes ont démarré en 2006. Quand j'étais jeune, je skiais énormément et je me suis blessée. Il y a 10 ans, j'ai commencé à avoir une terrible douleur dans le genou. J'avais besoin d'une opération, mais ça m'a déjà pris des mois pour avoir une consultation. Et la liste d'attente pour l'opération était d'un an. C'est vraiment douloureux, chaque pas est compliqué. Alors j'ai décidé d'aller à Calais, après avoir vu les résultats de mon ami qui s'est fait opérer ici.
Jean est en effet accompagné de Max. Il y a quelques mois, il a reçu une prothèse de hanche à Calais. Ses problèmes ont démarré en début d'année, après avoir tout essayé en Grande-Bretagne, chiropracteur, kiné, il a dû se résoudre à l'opération.
Le chirurgien orthopédiste m'a proposé 2 options. La première était de me faire opérer dans le privé, ce qui signifiait une attente de 2 ou 3 semaines seulement, mais pour un coût de 13 à 17 000 euros. La deuxième était de passer par la sécurité sociale britannique et il me fallait m'inscrire sur une liste d'attente pour espérer être opéré 40 semaines plus tard. Comme je n'avais pas d'assurance privée, j'ai essayé de chercher des alternatives. Un centre médical en Lituanie et après, je suis tombé sur l'hôpital de Calais sur Internet et j'ai été opéré en mai dernier de la hanche.
Pour réaliser ces opérations, l'hôpital de Calais a signé en 2015 une convention avec le NHS, le système de soins britannique. Les patients ne payent que le trajet pour venir à l'hôpital, le reste est pris en charge. Mais le NHS communique peu sur le sujet car cela serait reconnaître la défaillance de son système de santé.
On reçoit de plus en plus des patients anglais en moyenne de 3 par semaine.
Mohamed Soltani est chirurgien orthopédiste.
Ils ont fait appel à nous pour opérer les patients qui ne peuvent plus attendre, qui ont des pathologies déjà dépassées, notamment l'arthrose hein, de hanches, de genoux. Comme on n'est pas très loin, il suffit de traverser le tunnel, ils viennent chez nous, adressés par leur médecin traitant.
Y a-t-il une différence entre le patient anglais et le patient français ? Le docteur Soltani, après un léger embarras, finit par répondre.
On va dire les moins capricieux. Voilà, les moins capricieux, parce que comme ils attendent et tout ça, ils savourent quand on les opère et tout ça, ils sont reconnaissants. Les patients français pensent que c'est un dû. Enfin, ils sont habitués, ils sont chouchoutés, les patients français.
Lorsque l'hôpital a déménagé en 2012, les nouveaux locaux et les 1000 lits ont été construits dans l'optique d'accueillir cette nouvelle patientèle. Des places ont été créées en plus de celles nécessaires pour la population locale. L'activité anglaise reste minoritaire, mais l'intérêt pour l'hôpital est d'attirer de nouveaux médecins, de redorer l'image de la ville. Mais le tourisme médical est aussi et surtout une activité de complément qui permet d'apporter de l'argent dans les caisses de l'hôpital pour mieux rentabiliser l'investissement de la construction. La direction espère 1 million d'euros de recettes supplémentaires. Alors tout est fait pour que le patient anglais vienne à Calais. Pauline Richoux, directrice adjointe de l'hôpital.
Depuis plusieurs années, on forme tous les ans beaucoup de professionnels des secteurs de chirurgie à la maîtrise de l'anglais, donc à la fois des infirmières, des aides-soignantes, des chirurgiens, des anesthésistes. Ça a été aussi beaucoup de traduction pour traduire tous les documents utiles aux patients, les questionnaires d'anesthésie, le livret d'accueil du patient, tous ces documents ont été traduits en anglais. Et puis ensuite, c'est la création d'un poste de coordonnateur qui a pour mission d'organiser tous les rendez-vous pour les patients anglais et qui est le seul référent du centre hospitalier pour les patients anglais. Et ça facilite l'accueil et la prise en charge des patients anglais sur Calais, ça les rassure.
L'hôpital se prépare à la période hivernale. L'année dernière, beaucoup d'opérations outre-Manche avaient été annulées, se répercutant sur l'activité à Calais qui avait fortement augmenté.
I love this country.
What's left of it?
The scenery.
C'est l'épisode le plus sombre de l'histoire irlandaise, la grande famine qui a ravagé le pays de 1845 à 1849 et qui a provoqué 1 million de morts et un exode massif. Aujourd'hui, un film, Black 47, raconte sur grand écran cette tragédie avec en toile de fond l'occupation britannique. Un film aux allures de western que nous raconte Julien Lagache.
Ce n'est pas l'ouest sauvage américain désertique que retrouve Martin Finney, mais l'ouest ravagé d'une Irlande affamée. L'ex-ranger, engagé plusieurs années dans l'armée britannique, dans l'espoir d'y gagner un peu d'argent, retrouve son Connemara natal dans une ambiance glacée, comme hantée par une misère qu'incarnent des fermiers et des enfants aux silhouettes grises et maigres. Le peu de famille qui lui reste succombe elle aussi, après s'être fait exproprier de sa maison par les autorités anglaises. De rage, Finney se met donc à traquer ceux qu'il juge responsables de la mort des siens, lui-même poursuivi par 2 soldats britanniques chargés de l'arrêter. Loin d'une chevauchée fantastique, ce revenge thriller se déroule dans des plaines arides et désolées où le mildiou frappe les pommes de terre à leur principale, voire unique source d'alimentation des paysans, tandis que les grandes cultures gérées par des propriétaires terriens sont réservées à l'export vers la Grande-Bretagne. La mise en scène ne cache pas son parti pris contre une oppression britannique brutale. L'économie de dialogue fait entendre l'ambiance de mort qui règne tout en laissant voir la détresse ou le ressentiment dans le regard des personnages. Car Finney s'en prend à toutes les figures de l'autorité qui incarne autant de vexation pour le pays d'alors. Un magistrat prompt à condamner les paysans qui parlent le gaélique au lieu de l'anglais, un pasteur qui n'offre la soupe qu'aux Irlandais catholiques qui se convertissent au protestantisme, et bien sûr le notable à l'origine de l'expulsion de sa famille. Rare film à traiter de cette époque, Black 47 agit comme une catharsis à travers cette expédition punitive, mais il suggère surtout que la grande famine a sans doute servi de terreau au sentiment nationaliste, le même qui conduira l'Irlande à l'indépendance 60 ans plus tard.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique émission, puis Accent d'Europe. On se retrouve dès demain.
l'épopée.